Actualité des fondations de l'Institut de France et des académies. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Votre Altesse Royale, votre présence sous cette coupole, le jour même où elle intervient en qualité de grand témoin lors de l'ouverture de la conférence mondiale sur le climat, est un exceptionnel privilège. Pour nous, une joie profonde et aux yeux de tous, le symbole de liens précieux qui unissent nos deux peuples et d'une rencontre vivante entre nos deux cultures. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir votre Altesse Royale au nom des secrétaires perpétuels et des membres des cinq académies qui composent l'Institut de France. Et nous n'oublions pas en cet instant la mémoire de nos nombreux confrères de nationalité britannique qui ont siégé et siègent encore dans les domaines des lettres, des sciences et des arts au sein de toutes les compagnies, y compris aujourd'hui de l'Académie française. Parmi la foule des académiciens que l'on a dénommé le Parlement du monde savant, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sont bien entendu les plus empressés à entourer et à applaudir leur illustre confrère. C'est le 4 décembre 1992 que votre Altesse Royale a bien voulu accepter de rejoindre les membres de cette Académie et de participer à ses travaux lors d'une mémorable séance de réception sous cette même coupole. Votre Altesse Royale a alors prononcé un ample discours, profond et d'une brûlante actualité sur les questions de l'environnement. Depuis plus de deux siècles, l'Institut de France a été ce lieu privilégié, enjambant le Channel, bien avant l'Eurostar, consolidant toujours de concert avec Londres ce patient, imposant mais fragile édifice des chartes des libertés, des proclamations des droits de l'homme, de la construction de l'état de droit, qui sont bien notre patrimoine commun. Le juriste Maurice Duverger a parlé de monarchie républicaine pour caractériser les institutions de la Ve République. Et Charles Péguy, lui, parlait de la République, notre royaume de France. Si les divergences de forme peuvent nous séparer, les principes démocratiques nous rassemblent, l'entente cordiale est solide et nos institutions académiques reflètent cette harmonie. Je pense à la figure d'Édouard VII, l'oncle de l'Europe, qui, au tournant du XIXe siècle, a tant œuvré en faveur de la concorde du continent. Ayant accédé au trône en 1902, il souhaite se rendre à Paris l'année suivante et franchir l'étape décisive qui conduit à l'entente cordiale en 1904. Il y gagna la réputation de pacificateur, de peacemaker. Au lendemain des terribles attentats qui ont endeuillé Paris, le cœur du peuple anglais a vibré à l'unisson des Français. Votre Altesse Royale a elle-même fait part de l'horreur que lui ont inspiré ces actes de barbarie et de sa sympathie et de sa solidarité. La France a été profondément émue d'une minute de silence observée lors d'un match de football généralement bruyant, et plus encore peut-être de cette Marseillaise entonnée par le stade tout entier et qui a fait trembler d'émotion même les plus endurcis des spectateurs. Tous ceux d'entre nous, qui sont la plupart et qui éprouvent un attachement pour l'outre-Manche, ont admiré au fil des années l'évolution sur la scène internationale du personnage du prince de Galles. Car votre Altesse Royale est un personnage non seulement de la royauté, mais de l'histoire de son pays et du monde. Il faut un héritage d'histoire et la conscience de sa destinée pour inscrire une activité protocolaire dans celle d'un personnage historique. Celui qu'incarne votre Altesse Royale exprime des vues qui touchent de très larges aspects de l'actualité et des problématiques du monde contemporain. J'aimerais marquer ici, très brièvement et avec votre permission, quelle ampleur et quel retentissement ont progressivement acquis ces vues et selon quel enchaînement. Tout d'abord, l'architecture et l'équilibre de l'homme. En 1989 est paru un ouvrage à voir le regard personnel sur l'architecture d'aujourd'hui de Votre Altesse Royale. Il s'appelle « Le prince et la cité ». Cet ouvrage était prémonitoire, d'une grande érudition, merveilleusement documentée, richement illustrée, notamment par de subtiles aquarelles de votre main. Ce livre témoigne du souci de l'équilibre que l'homme doit trouver avec son environnement naturel et bâti. J'ai vu surtout la clairvoyance et la profonde communion d'un homme avec son pays et son peuple. Ensuite, les paysages et le bien-être. Votre Altesse Royale est un homme de la terre, un homme des campagnes. Votre action ne s'exerce pas seulement dans le domaine patrimonial, mais par la réflexion, le mécénat et les interventions en faveur de la biodiversité, du respect des paysages, de la lutte contre la déforestation, la préservation de la nature et le maintien de la vie sauvage. Enfin, l'environnement et le cadre de vie. Le cœur de la vision du monde de Votre Altesse Royale repose sur un pacte scellé avec le passé, qui a vocation à nourrir et à soutenir le présent et le futur. Gare à la rupture de ce pacte, à l'anéantissement de sa signification et de son message, l'homme inscrit son développement dans une trame historique qu'il ne faut pas rompre, car elle contient les aspirations profondes du peuple. Il y a plus d'un quart de siècle, vous lanciez ici même cet avertissement. Nous perdons notre âme et le droit d'être considérés comme des êtres de civilisés, en croyant que cette terre est faite pour que nous exercions notre domination et en détruisant ce juste sentiment d'humilité qui permet de vivre en harmonie avec l'environnement. Votre Altesse Royale appelait à l'équilibre au sein des proportions, essentiel à la sauvegarde du monde, visible et invisible. Cela vaut pour l'environnement comme pour la transcendance. Ce message est enfin devenu audible de nos contemporains après les travaux des experts et les réunions des diplomates. La pensée développée par Votre Altesse Royale témoigne d'une écologie politique, à la manière de cette science qui étudie les êtres humains dans leur milieu et leurs interactions en société, à milieu des écologistes dogmatiques. Il s'agit d'un humanisme conscient des dangers pour la planète et des enjeux de notre époque. La meilleure preuve en est que Votre Altesse Royale fut ce matin un témoin mondial de ces questions et est éclairé de ses réflexions l'ouverture d'une réunion des représentants de près de 200 pays. Rien ne pouvait nous être plus sensible qu'elle ait accepté de revenir sous la coupole, recevoir avec le prix de la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire notre hommage le plus chaleureux. Au nom de mes confrères, je vous en exprime respectueusement et confraternellement notre profonde reconnaissance.
Votre Altesse Royale, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, sans doute Votre Altesse Royale a-t-elle été surprise d'apprendre qu'elle avait été choisie pour recevoir le prix Rabelais de la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire qui abrite l'Institut européen d'histoire et des cultures alimentaires, dont je salue le président Jean-Pierre Corbeau, ici présent, et l'ancien président Marc de Ferrière et le directeur Francis Chevrier. Cet institut est lié à l'Université de Tours, qui a pour nom François Rabelais. J'avais eu l'honneur, il y a une douzaine d'années, de vous remettre la grande médaille de la Société de géographie en Sorbonne. Ces deux distinctions me paraissent complémentaires, comme je vais tenter de l'exposer. Vous êtes tout d'abord un véritable défenseur des valeurs que le grand écrivain François Rabelais a illustrées tout au long de ses écrits et de sa vie. En effet, ce prix Rabelais est destiné à honorer une personne pour son œuvre au service de la mise en valeur du patrimoine culturel alimentaire de la France ou dans le monde. Et Dieu sait que Rabelais était attaché au patrimoine alimentaire. Mais le prix salue également une personnalité qui sait allier le sérieux de la réflexion et de l'action avec un solide sens de l'humour. Vertu dont votre Altesse sait faire preuve en toutes circonstances, ce qui lui vaut l'estime et, si elle me le permet, l'affection de beaucoup de Français. Rabelais disait « Pour ce que rire est le propre de l'homme, vivez joyeux ». Votre grand Shakespeare a lui aussi inventé un personnage très proche du Pantagruel de Rabelais, Sir John Falstaff, présenté par l'écrivain comme un familier de vos ancêtres. Rabelais a vécu dans ce XVIe siècle très troublé des guerres de religion qui ont tant meurtri nos deux pays et toute l'Europe en même temps. Nous replongeons depuis quelques années dans une absurdité comparable, hélas, et votre présence parmi les Français aujourd'hui est un véritable témoignage d'amitié auquel nous sommes extrêmement sensibles. L'antidote que Rabelais opposait à la barbarie, c'était une culture humaniste, pleine d'empathie pour autrui, et un optimisme totalement confondu dans son œuvre. Vous savez, nous savons combien l'ignorance et le pessimisme sont des armes de destruction massive. Et nous avons pu en voir les terribles effets il y a quelques jours à Paris. Vous êtes venu dans notre capitale pour contribuer à trouver des solutions afin que l'environnement de l'humanité soit toujours mieux géré à son service. C'est en effet l'une des voies d'une plus grande harmonie sociale et c'est tout le sens de votre action depuis des décennies. Votre fondation, The Prince of Wales Charitable Foundation, a été créée par vous en 1979, il y a donc 36 ans. Les actions de celle-ci touchent à l'environnement et au développement économique harmonieux, on le dit parfois durable, ce qui est une mauvaise traduction, je pense, du sustainable anglais, et c'est bien difficile à définir ce qui est durable. Mais vous agissez partout dans le monde, en particulier au Ghana, au Liberia, en Indonésie, au Brésil, au Canada, mais aussi, bien entendu, au Royaume-Uni. La gestion des forêts pluviales, la production agroalimentaire et la pêche sont les axes majeurs de votre action. J'en viens maintenant au cœur de votre action qui vous mérite ce prix Rabelais. En 1990, vous avez créé dans votre duché de Cornouailles l'entreprise Duchy Originals, qui fédère le travail d'agriculteurs et d'artisans produisant des aliments de terroir selon des méthodes biologiques. Les biscuits d'avoine de la marque Duchy, qui portent gravés vos armoiries, sont devenus très populaires au Royaume-Uni, en France et ailleurs dans le monde. Et vous avez, je crois, joyeusement célébré leur 21e anniversaire il y a 2 ans dans les jardins de Clarence House, où vous avez, je crois, fait goûter ces produits à tous vos invités. Aujourd'hui, les produits Duchy se sont diversifiés jusqu'à atteindre le nombre de 230, des viandes fraîches, des charcuteries, du saumon, des produits laitiers, des fromages, des céréales transformées, des fruits, des confitures, des tisanes issues du travail de plus de 3000 agriculteurs respectant un strict cahier des charges. Vous avez même, dans le cadre de Duchy, ajouté des produits tropicaux biologiques et issus du commerce équitable, du thé, du café, des fruits, etc. Et bien entendu, des boissons variées. Du cidre, par exemple, grande production de votre duché, mais aussi du vin, puisque la Grande-Bretagne est en train de redevenir un grand producteur de vin à la faveur du réchauffement climatique. Tous ces aliments de qualité sont commercialisés aujourd'hui par la chaîne de magasins Waitrose. Chaque année, Waitrose Duchy Organics, qui est le nouveau nom de l'entreprise depuis l'été dernier, verse plusieurs millions de livres à votre fondation. Permettez-moi un aparté, faisons un rêve. Peut-être qu'un jour s'ajoutera à cette liste de merveilleux produits un foie gras français issus d'élevages dans lesquels les oies et les canards sont traités avec affection, comme il en existe un certain nombre en France, vous le savez. Nous savons d'ailleurs combien Votre Altesse Royale aime les paysages de la France, ses bons vins et sa cuisine, comme elle le déclarait en Sorbonne le 6 février 2003. Pour votre œuvre au service de l'amélioration du cadre de vie, des paysages et de l'alimentation des Britanniques, et pour votre souci de partager généreusement vos idées avec tous les habitants de cette planète, la Fondation européenne pour le patrimoine alimentaire, en partenariat étroit avec nos amis de la chaîne hôtelière familiale Relais et Châteaux, dont je salue le président Philippe Gombert ici présent, est heureuse de vous remettre le prix Rabelais 2014.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne peux commencer sans vous dire à quel point mon cœur est lourd en pensant à l'effroyable agonie de ceux ayant perdu les proches du fait des atrocités innommables survenues il y a 2 semaines à Paris. Je vous assure de ma sympathie la plus profonde et de ma solidarité envers les peuples français. Against a background of such inhuman violence and terror, it is almost impossible to talk sensibly about matters of everyday civilization. Yet that is what I propose to do, because in the face of such awfulness, it may help to be reminded of the simple and timeless values, human values, that lie at the heart of our society. Indeed, there is plenty in the writings of Maître François Rabelais himself to suggest that he placed great importance on good-natured hospitality, with friendship and sincerity seemingly at the heart of the many gastronomic and well-lubricated banquets that he took such pleasure in describing. Rabelais, in his writings, lets on from time to time his penchant for the products of his region. Andouille, the Williams pear, the diverse fish of the Loire, and of course, the immortal wines of Chinon, Saumur, and Saint-Nicolas de Bourgueil, all 100% organic, naturally. Now, I cannot imagine that Rabelais would ever have compromised on the quality or the diversity of food, and neither should we. The distinctiveness of local cuisine is one of the most important ways we identify with the places and regions we love. Timeless values such as sustainability, cultural identity, community, health and taste, intangible things that nourish body, mind, and the human spirit, are more important than pure convenience or soulless efficiency. So too is the health of the soil, which underpins all human existence as much today as it did 500 years ago. Ladies and gentlemen, the latest research shows that the world's soils hold 3 times as much carbon as the entire atmosphere. As part of the momentous international discussions taking place on climate change in this city at this very moment, your government is launching an important initiative to draw attention to this very point. They have calculated that if the quantity of carbon contained in soils could be increased by just 0.4% per year, the annual increase in carbon dioxide in the atmosphere could be halted. The same measures would, of course, also improve soil fertility and therefore our ability to feed a growing population. So it will not surprise you to know that this seems to me to be a hugely important and timely initiative. I can only hope it will be given proper attention by policymakers. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'être ici comme un confrère de l'Institut. J'ai passé de nombreuses années et j'ai mis beaucoup d'énergie à vanter les bénéfices du travail avec la nature, à mobiliser les forces positives à travers des sols sains, des cultures saines et des animaux en bonne santé afin de produire de la nourriture saine pour les gens. À encourager une approche plus holistique de l'agriculture, des forêts et de la riche diversité de la production de nourriture. À me battre pour la survie des petites exploitations agricoles familiales et pour leur rôle vital dans les communautés rurales et les systèmes alimentaires locaux. Et non seulement au Royaume-Uni, mais aussi à travers le monde. Déjà en 1992, en tant que patron de l'Association des fromagers spécialistes du Royaume-Uni, lorsqu'ici même à Paris, j'étais allé jusqu'à orchestrer une défense vigoureuse de nos fromages contre les prédations de la police, de l'hygiène, de la santé et de la sécurité. Je me rappelle avoir dit à l'époque que l'expression « norme d'hygiène minimale » en matière de nourriture allait semer la terreur dans le cœur de tous les Français et de tous les autres peuples pour qui la vie ne vaut pas d'être vécue sans pouvoir profiter de tous les glorieux produits non hygiéniques que l'humanité, et tout particulièrement sa portion française, a créé avec amour à partir de la terre du Seigneur. Dans une société bactériologiquement correcte, j'ai posé la question: qu'adviendrait-il du brie de meux, du crottin de chavignol ou du bleu d'Auvergne dans un futur sans microbes, progressiste et génétiquement modifié? Quel espoir y aurait-il pour la traditionnelle forme d'Ambert, le malformé gruyère de Comté, ou l'odorant Pont-l'Évêque? Est-ce que cette obsession pour l'accréditation, la catégorisation, l'homogénéisation et la pasteurisation entraînera l'émasculation de robustes vieux roquefort, du camembert, de reblochon et même de coulant vacherin? Cela peut sembler absurde de le dire, mais une grande partie du magnifique édifice de la civilisation européenne repose sur l'héritage de génie et le savoir-faire artisanal du peuple qui sait produire des concoctions si distinguées. Ladies and gentlemen, I could not be more profoundly touched or proud to have been awarded the François Rabelais Prize by your foundation. It is an immense honor, and one that I will treasure, not least when I look at the list of previous winners and the contributions they have made to French gastronomy. I note with all humility that I am in very illustrious company. Even when accepting a prize in the name of the foremost historian and advocate for the history and culture of French and European food, I find myself unable to recommend the consumption of herons, swans, or peacocks, all of which featured regularly in the feasts of Rabelais. There is, however, in the description of a banquet in Gargantua, a reference to 400 capons from Cornwall, and so I will certainly consider proposing to the farmers of the duchy the reintroduction of this delicate dish, now very rare indeed, to the honour of Maître François and to the culinary entente cordiale. Mesdames et messieurs, je vous suis profondément reconnaissant de l'honneur que vous me faites cet après-midi, et je ne peux que vous souhaiter tout le succès possible dans la poursuite de la défense et de la mise en valeur de cette histoire, de cette culture et de la survivance de la vraie nourriture, sans laquelle toute nos vies deviendraient absolument insupportables. Merci.
Actualité des fondations de l'Institut de France et des Académies. Une retransmission proposée par Canal Académie.